Loire FM, aux portes du Dauphiné, 107. L'invité.
L'association La Tour Prend Garde est née en 1988 et elle vise à sauvegarder et promouvoir le patrimoine de la Tour du Pin. Depuis plusieurs mois, l'association porte le projet d'une maquette pour faire revivre le château disparu de la Tour du Pin. Pour évoquer avec nous ce beau projet, Élodie Ferrier, vous êtes présidente de l'association La Tour Prend Garde. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut déjà revenir un petit peu sur la genèse de ce projet ? Pourquoi reconstituer un château qui a disparu il y a plus de 400 ans ?
Ce projet est né d'un vieux rêve de quelques membres de notre association qui étaient désireux de voir ressurgir du passé ce château qui a entièrement disparu, puisqu'aujourd'hui rien ne laisse supposer à l'endroit de ce château qu'il a pu exister et surtout principalement son envergure. On ne peut pas imaginer qu'à la place du cimetière aujourd'hui de la Tour du Pin qu'il puisse y avoir eu un château avec un donjon qui devait mesurer presque 58 mètres de haut. Donc c'est vrai que les membres de l'association qui étaient là bien avant moi avaient eu ce projet en tête et jusqu'à présent ne s'étaient pas lancés. Et quand moi je suis arrivée à la présidence l'année passée, ils ont un peu ressorti des cartons ce projet-là et ils se sont dit pourquoi pas, tu as le dynamisme pour éventuellement porter ce projet-là et aussi l'accès à certaines technologies qui étaient nécessaires. Et puis aussi un peu ce grain de folie en se disant on va se lancer dans ce projet. Donc effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'ai dit banco, on va y aller. Du coup, il fallait trouver bien sûr les bonnes personnes pour pouvoir le réaliser. La première chose, c'était de voir si l'historienne qui avait travaillé sur le projet était partante, puisque c'était vraiment le point de départ fondamental. C'était Carlette Perrin, qui a longuement travaillé sur le château, qui en a fait un objet d'étude, puisse faire partie du projet. C'était vraiment le point de départ. Donc, elle aussi, après qu'on lui ait bien expliqué ce qu'on attendait et qu'on respecterait bien scrupuleusement les textes et qu'on serait très attentif à ce que ce soit le plus fidèle à la réalité en fonction des informations qu'on avait, nous a dit « Ok, donc on s'est lancé comme ça ». Et puis, bien sûr, il fallait trouver un maquettiste qui soit à la hauteur du projet qui était très ambitieux. Parce que l'idée, c'était de réaliser donc la maquette à l'échelle de 1 centième. Donc, ce qui fait quand même une grande envergure, puisqu'au final, on aura un château qui va faire 2,40 m par 1,80 m. Donc, ça fait vraiment une maquette de grande envergure. Donc, il fallait quelqu'un de taille. Et on a trouvé donc la personne de Jean Micard, qui est dans l'association depuis longtemps et qui fait des maquettes remarquables, mais qui était plutôt spécialisé dans les maquettes de bateaux et qui avait fait aussi pas mal de dioramas, de modélisme, des figurines historiques. Enfin, il a un savoir-faire assez étendu en la matière. Et lui aussi est capable de se lancer dans des aventures aussi folles. Et il nous a dit, d'accord, en sachant que quand même on se disait un an pour faire tout ça, ça va être juste. Mais on s'était fixé pour objectif que ce serait terminé pour les Journées du Patrimoine en 2017. Donc le point de départ, c'était juin l'année dernière. On a commencé par avoir des réunions avec donc l'historienne Arlette Perrin et Jean Micard pour fixer un peu les bases. Et puis ensuite, eux deux se sont lancés et ont commencé à travailler ensemble à partir des textes pour pouvoir les traduire le plus fidèle, reprendre point par point. Donc même si l'historienne avait déjà traduit les textes qui étaient à l'origine en latin, c'est des textes qui dataient de 1339 et 1472. Ils ont repris point par point pour voir les informations qu'on avait, en sachant que, heureusement, c'était des textes assez précis sur le bâtiment lui-même, parce qu'en fait, ce château, Humbert II, au moment où il a voulu se séparer du Dauphiné, avait envisagé de le vendre au pape. Le pape avait mandaté des personnes pour aller faire justement un inventaire du château, donc c'est pour ça qu'on a déjà des points assez très précis en 1339 sur le bâtiment. Malheureusement, on n'a pas tout, évidemment, puisqu'ils se sont quand même intéressés sur les parties les plus importantes du château. Ils n'ont pas tout détaillé, mais ça a été vraiment un point de départ. Et ensuite, on a un autre inventaire en 1472 qui a été fait par rapport à des travaux qui devaient être envisagés. Ils sont partis de ces textes-là. Et à partir de cette analyse minutieuse, on a commencé à avoir des plans qui se sont dessinés.
Le maquettiste s'est beaucoup appuyé sur les travaux, notamment d'une historienne et sur les écrits. Mmh. Est-ce qu'on a quand même retrouvé certains éléments, certaines choses de ce château médiéval ?
Il y a des fouilles qui ont été effectivement réalisées en 1970 par le groupe Renaissance Historique avec le docteur assez célèbre à la Tour du Pin, André Dénier, qui ont permis de retrouver des murs de fondation, des poteries, un bénitier, des clés, des pièces de monnaie, même une cave et une salle souterraine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les éléments donc, ne sont pas visibles, hormis effectivement les poteries, les bénitiers, les clés qui seront présentés lors de l'exposition. Donc voilà, à part ces éléments-là, il ne reste rien sur le site et la cave et la salle souterraine que je mentionnais ne sont plus du tout accessibles et ne sont pas du tout exploitées à l'heure actuelle.
Donc il reste vraiment finalement que la maquette pour découvrir ce château.
Exactement.
Comment est-ce que vous-même avez réagi quand vous arrivez à la présidence en voulant ce projet-là? Vous connaissiez déjà un petit peu l'histoire de ce château? C'est quelque chose qui vous était déjà familier ou alors finalement vous avez tout découvert en même temps que ce projet?
J'avais eu vent de l'existence de ce château puisque quand je suis arrivée à la Tour du Pin, ça fait pas si longtemps que ça puisque je suis arrivée en octobre 2013. J'ai posé mes valises là-bas parce que pour des raisons personnelles, il fallait qu'on habite entre Grenoble et Lyon. Donc la Tour du Pin, c'était le lieu privilégié pour sa situation. Et puis c'est une vie qui est très agréable à vivre là-bas. On s'est installé avec mon mari donc à la Tour du Pin. Et on a acheté dans un lieu qui n'est pas très commun, on va dire même très atypique, qui est un château aussi, beaucoup plus récent, qui date du XVIIe siècle puisqu'il a été construit en 1640. Par un membre du Parlement de Grenoble. Donc il y a une architecture qui n'est pas du tout dans le style du château médiéval. Mais ceci dit, voilà, on a acheté dans ce lieu-là, ce qui nous a permis de faire connaissance avec un membre de l'association de la Tour Prend Garde. Et c'est lui qui m'a parlé de ce château médiéval qui se trouve être juste au-dessus de là où on habite. Donc forcément, j'ai pris connaissance en tout cas de l'existence de ce château en achetant un bien juste à côté. Voilà, c'est le point de départ.
Ça fait une grosse année maintenant que le projet est lancé. Déjà en termes de planning, ça va à peu près? Vous devriez être bon pour les Journées du Patrimoine en septembre?
Oui, c'est bon. On a réalisé donc une première maquette, mais on est tellement fous qu'on en a fait une seconde. C'est-à-dire qu'on a la première dont je vous ai parlé et puis on va avoir une seconde maquette qui, elle, est de proportions plus réduites. Mais l'idée, c'était que les gens puissent savoir exactement où le château était situé par rapport à l'église, par rapport à la Madone, par rapport au cimetière, parce qu'aujourd'hui, les Turépinois savent exactement où sont situés ces éléments-là, forcément, mais ça permettait de mieux se projeter, en fait.
Donc finalement, il y aura une grosse maquette qui sera où? Qui sera gardée à la Maison des Dauphins, c'est ça?
Le lieu d'exposition, vous allez avoir les deux maquettes qui seront exposées. Donc la plus grande qui ne représente que le château. Et ensuite, vous avez une plus petite maquette qui, elle, représente le château dans son emplacement géographique pour pouvoir mieux le situer. Du coup, là, ça a été réalisé par d'autres associations. C'est important que j'insiste là-dessus, mais ce projet a créé une réelle synergie et a emporté l'enthousiasme de nombreuses personnes. J'espère ne pas oublier, en tout cas, il est important que j'en parle de tout le monde, de tous ceux qui ont pu nous aider. Et c'est vrai que les associations qui sont intervenues pour cette petite maquette, il y a l'association des maquettistes de Corbelin qui est intervenue sur cette plus petite maquette, mais qui a représenté tout de même 600 heures de travail jusqu'à maintenant et c'est pas fini, donc il va y en avoir encore plus. Cette maquette-là sera aussi présentée en même temps que l'autre à la Maison des Dauphins. Il y aura une exposition à partir du 16 septembre où les gens pourront voir les deux maquettes. Et ensuite, l'exposition parle du château, de l'histoire un peu du Dauphiné, parle de la technique aussi qu'on a employée et on revient sur ça. Et puis, on a une mise en scène aussi d'une salle d'armes, donc pour que les gens puissent un peu plus s'imprégner de ce qui pouvait se passer à l'intérieur du château. Et puis, on a un film aussi qui sera projeté, qui retracera justement les différentes étapes de la réalisation de ces deux maquettes avec les gens qui sont intervenus. On a aussi une autre association de Bourgoin-Jallieu, donc les Corsaires, qui nous ont aidés parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de savoir-faire qui sont nécessaires pour réaliser ces maquettes. On ne réalise pas, mais c'est fait parfois de bonnes idées, de débrouillardise, beaucoup. Il faut arriver à trouver les matériaux nécessaires. Quand on voit le produit fini, on a du mal à imaginer en fait tout le savoir-faire qui a été nécessaire pour pouvoir réaliser ces maquettes-là. Par exemple, pour faire une tour ronde, c'est pas évident. Il faut avoir un tour à bois, il faut être équipé. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à d'autres associations parce que nous, on n'avait pas les moyens techniques, en tout cas au départ.
Ce projet a été très fédérateur de différentes associations, mais vous avez aussi été soutenu par les pouvoirs publics, notamment.
Oui, tout à fait. On a reçu le soutien de la mairie de la Tour du Pin, qui est partenaire de ce projet, qui s'est montré également très enthousiaste à l'idée de la réalisation de ce château. Donc on a beaucoup travaillé avec le service culturel, avec l'adjointe à la culture Claire Durand, que je remercie, et puis bien sûr le maire de la Tour du Pin, Fabien Rajon, qui nous ont beaucoup appuyés, alors ne serait-ce que le soutien financier, mais aussi le prêt d'une salle pour pouvoir réaliser des conférences sur la thématique du château médiéval. Donc il y a eu 3 conférences sur le château et les thématiques médiévales. Leur aide s'est aussi matérialisée comme celle-là. C'est aussi eux qui nous prêtent les locaux pour l'exposition. On reçoit aussi des aides matérielles qui sont les bienvenues. Et puis on a aussi le conseil départemental qui nous a aidés. Et notamment, on a la conservatrice du patrimoine, Annick Clavier, qui nous a épaulés et avec son regard d'archéologue a pu nous donner quelques idées, ce qui a donné quelques sueurs froides à notre maquettiste qui s'était parfois lancé avec beaucoup de fougue dans la réalisation et qui a dû un peu revoir quelques détails qui n'étaient pas historiquement acceptables. Ça a été vraiment un partenariat vraiment très large avec différents acteurs des institutions.
Comment est-ce que vous expliquez cet enthousiasme autour de ce projet, puisque finalement les mauvaises langues pourront dire qu'il ne s'agit que d'une maquette, et pourtant ça fait beaucoup parler, en tout cas dans la région, dans le Nord-Isère, c'est quelque chose qui interpelle. On a hâte d'être en septembre pour voir ce que ça va donner.
Je pense que c'est le fait de transmettre un patrimoine qui n'existe plus. Je pense que déjà, ça suscite la curiosité. Déjà, quand on vous dit un petit peu, tiens, il y avait un château à cet emplacement, déjà, les gens sont interloqués parce qu'ils disent, ah oui, il y avait un château effectivement là. Quand on commence à leur dire l'envergure, quand on commence à leur dire que le donjon avait cette taille-là, c'est vrai que du coup, ça interpelle d'autant plus. Je pense que c'est aussi une façon de transmettre un patrimoine aux générations futures et qu'on a l'habitude d'avoir des patrimoines qui sont déjà bien en place, qui sont mis en valeur par des fêtes médiévales, je pense à Crémieux par exemple. Et c'est vrai que là, le fait de faire revivre ce château qui n'existe plus depuis le XVIe siècle, enfin du moins qui a été grandement endommagé en 1591, au moment de sa destruction, je pense que c'est ça qui suscite cet intérêt. Et puis il y a autre chose, c'est que c'est une période qui fascine quand même, la période médiévale, le Moyen-Âge. Je pense que dans l'imagination populaire, c'est déjà une période qui attire. Donc je pense qu'il y a de ça aussi, parce que l'année dernière, on avait fait une exposition sur la Renaissance et l'appétence n'était pas la même. Pourtant, ça reste des périodes historiques qui sont très riches, mais l'intérêt n'était pas le même.
Le Nord-Isère est un département, est une région très médiévale, avec beaucoup de châteaux qu'on ne connaît pas forcément, ou en tout cas toute une histoire médiévale importante. Vous parlez de la Renaissance, ça va me permettre de rebondir sur vos différentes activités, puisque là, on parle effectivement de ce gros projet de la maquette. Donc, je vous rappelle que vous pourrez l'avoir à l'occasion des Journées européennes du patrimoine en septembre, mais vous organisez aussi des sorties, des conférences, des expos. Quels sont un petit peu les grands thèmes développés ? On a parlé de Renaissance, de Moyen-Âge. C'est quoi ? C'est l'histoire de la Tour du Pin au sens très large ?
Oui, alors ce qu'on essaye de faire, c'est de promouvoir le patrimoine de la Tour du Pin. Un patrimoine qui a bien sûr une histoire qui s'étale de l'origine, effectivement, qui remonte même à la période romaine jusqu'à nos jours. Et on peut constater qu'effectivement, c'est une histoire qui est très riche et à chaque période, on peut trouver un intérêt et un point d'accroche. Bon, l'année dernière, c'était la Renaissance. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le passage de François Ier en juin 1516 qui a fait qu'on a célébré les 500 ans. Puis on arrivait juste après Marignan. Donc ça relance un peu François Ier, alors que c'était passé et on n'était plus sur 1515. Et puis, le médiéval, parce qu'il y a ce château qui a existé et qui mérite qu'on s'y intéresse. Et puis, l'année prochaine, il y aura par exemple les commémorations de 1918. Et là aussi, on aura de quoi en parler parce qu'on a une histoire très riche aussi là-dessus, sur la Tour du Pin. Ce qu'on essaye de faire aussi, c'est cette transmission aux générations futures. C'est là-dessus auquel moi j'accorde beaucoup d'importance parce que je pense que l'association ne pourra survivre que si on arrive à remplir ce pari-là. Et c'est vrai que notre association, elle essaye de se diversifier dans ses activités justement pour aller vers tout public et essayer de contenter le néophyte comme un expert des histoires, parce qu'il y a quand même des gens qui s'y connaissent très bien maintenant. Et c'est vrai qu'on en apprend de tout le monde. Et c'est ça qui est important dans cette association, c'est qu'on construit un peu chaque activité en fonction des propositions, des idées, des membres du bureau, mais aussi des gens qui nous soumettent aussi des fois des idées de conférences, par exemple. C'est vrai qu'en général, c'est pas toujours évident de trouver des gens qui vont nous parler d'un sujet en particulier. Et c'est spontanément, des gens peuvent nous proposer des sujets, donc on est ouvert en tout cas aux propositions qu'on peut avoir. C'est vrai qu'on organise à peu près 5 à 6 conférences par an sur des sujets différents. Alors soit on développe une thématique, comme là on a développé la thématique du médiéval, mais on peut développer tout à fait autre chose. Là par exemple en octobre on parlera d'un résistant qui nous tient beaucoup à cœur, Albert Thévenot. Voilà, donc on n'est pas que sur la thématique du médiéval. Ensuite, on fait aussi des sorties, puisque ça, c'est aussi apprécié, parce que ça permet à des gens qui ne peuvent pas forcément se déplacer sur des longues distances en voiture, bah, d'être véhiculés et de pouvoir découvrir d'autres patrimoines de la région ou même un peu plus loin, puisque là, par exemple, en juillet, on va aller jusqu'à Grignan. Mais ça permet, voilà, à des personnes qui ne pourraient pas le faire par elles-mêmes d'y aller. Ça permet d'ouvrir des portes aussi, parce qu'on visite aussi des châteaux qui ne sont pas forcément ouverts au public, et ça nous permet de faire découvrir d'autres patrimoines qui ne sont pas toujours accessibles. On va aller dans les Dombes en septembre, par exemple, et on va visiter aussi un château qui n'est pas forcément toujours ouvert au public. On essaye d'avoir des publications régulières pour laisser une trace, notamment des expositions, parce que ça, on nous le demande régulièrement. Bah, vous auriez pas un livret sur l'exposition, parce que ça m'a beaucoup plu, mais j'ai pas forcément eu le temps de tout lire. Parce qu'en général, c'est assez riche. Donc ça permet aussi aux gens de conserver une trace de tout ça. Et puis après, bah, même les expositions, on essaye de les exporter, c'est-à-dire qu'on est ouvert à prêter nos expositions. On a réalisé une exposition sur la Tour du Pin, mais on a aussi cette exposition sur François Ier, puis on aura maintenant cette exposition sur le château médiéval qu'on peut tout à fait prêter avec des supports écrits, visuels, qu'on peut éventuellement déplacer. Et puis la maquette aussi, elle est transportable, parce qu'on souhaite qu'elle soit visible le plus possible. Pour l'instant, on n'a pas de lieu pérenne, hein, c'est-à-dire qu'elle va d'abord être exposée donc à la Maison des Dauphins, mais à l'issue de cette exposition, bah, elle va aller dans notre local et elle sera visible lors des permanences. Mais ensuite, pourquoi pas dans un lieu d'exposition, un musée, ou bien qu'il y ait une itinérance, en tout cas, dans les châteaux alentours. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui nous ont déjà fait part de leurs souhaits. Voilà, je pense qu'on ne fait jamais les choses pour qu'elles aient une durée de vie limitée.
L'appel est lancé, en tout cas, si jamais ça intéresse certains.
C'est ça.
Et ça me permet de rebondir, parce qu'effectivement, on parlait tout à l'heure hors antenne que ce projet de maquette, qui à la base n'était qu'une maquette, et peut finalement être pour l'association un projet de beaucoup plus longue haleine, avec peut-être une déclinaison sur d'autres formats, et notamment des formats numériques.
Oui, tout à fait. La première chose, c'était au niveau de la maquette. Bon, on s'est dit, c'est figé, on va l'exposer quelque part. Mais il y a le site qui est important. C'est-à-dire que quand on va sur le site du château, qui, je le rappelle, est celui du cimetière et de la Madone de la Tour du Pin, eh bien, on n'a pas idée qu'il y a eu ce château. Donc, de là est née une autre idée, à savoir comment on peut matérialiser sa présence. Donc là, on a monté un projet de table de lecture qui nous fera un certain temps pour réaliser, parce qu'il nous faut le budget nécessaire, ce qui n'est pas négligeable. Donc là aussi, on a fait un appel aux généreux donateurs pour contribuer à ce projet-là, pour pouvoir voir un jour cette réalisation, on espère en 2018, si on a réuni tous les moyens. Et déjà, on a quelques généreux donateurs que je remercie, et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Donc il y a cette table de lecture qui viendra matérialiser la présence du château sur le site originel. Et puis ensuite, on pense à un projet de modélisme en 3D de la maquette, mais aussi de son intérieur. Parce que c'est vrai que ce que verront les gens pour l'instant, c'est l'extérieur du château. Et nous, on a envie même d'aller un petit peu plus loin en envisageant des visites 3D. Donc là, je travaille à l'heure actuelle avec Cécile Armingo, qui est une amie à moi, qui réalise en fait des visites en 3D et des images 3D, et qui pourrait mettre en scène éventuellement les intérieurs, en sachant que les intérieurs qui sont les plus précis, entre guillemets, avec les dimensionnements, etc., ce serait éventuellement le donjon. Mais bon, voilà, ça, je dévoile un petit peu. Mais c'est en projet et on verra bien si ça peut voir le jour, car c'est une technologie qui nécessite beaucoup d'heures de travail, comme la maquette.
Forcément, donc il y a encore finalement de belles années où on va pouvoir entendre parler de ce château de la Tour du Pin, alors.
Oui, je pense qu'on est parti pour du long terme sur ce projet-là. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on est parti de rien. Et que voilà, on va avoir une maquette, on va avoir peut-être une table de lecture. Et puis après, on aura peut-être une visite en 3D qui permettra aux gens de se replonger dans la Tour du Pin à la période médiévale. Donc je trouve que des fois, on part de pas grand-chose, de quelques rêves. Et puis on arrive à un formidable projet qui réunit énormément de personnes et qui suscite beaucoup d'intérêt. Et voilà, je pense que ce projet-là, en tout cas, il mérite qu'on en parle pour ça.
Ce qui est beau aussi dans ce projet, c'est qu'il ne s'adresse pas forcément qu'à des férus d'histoire, même pas forcément d'ailleurs à des férus de la Tour du Pin. Finalement, monsieur tout le monde peut aller découvrir ce projet-là et apprendre des choses sur l'époque médiévale, sur comment est-ce qu'on vivait aussi, peut-être même à la Tour du Pin à l'époque médiévale. Ça se veut très grand public.
Oui, l'exposition d'ailleurs est tournée en ce sens, c'est-à-dire qu'on va... On parle effectivement de la maquette, mais on va aussi parler de la vie de ce château-là, plus particulièrement, et puis de l'histoire du Dauphiné, qui est très riche à l'époque médiévale. Effectivement, le but, c'est d'attirer un public qui ne soit pas forcément connaisseur, mais dont la curiosité aurait été aiguisée par ce projet. C'est pour ça qu'on démultiplie aussi un peu les supports, c'est-à-dire qu'on va avoir la maquette, mais aussi on va avoir des panneaux d'explication. En bas, on a une scénographie aussi avec une reconstitution. On a un support, un film. Donc, en démultipliant les supports dans l'exposition, on permet à des gens qui ne voudraient pas forcément tout lire, qui ne voudraient pas forcément... que s'arrêter sur la maquette, de prendre ce qu'ils veulent, quoi, en fait. Hein. Voilà. Et puis, le but aussi de notre démarche, c'est de se mettre à la portée de tout le monde. On est là aussi pour, quelque part, quand on promouvoit un patrimoine, je dirais presque on le vulgarise, entre guillemets. Le mot n'est pas très joli, mais c'est un peu l'idée, c'est de le rendre le plus ludique possible et vraiment à la portée de tous et que chacun prenne ce qui l'intéresse.
Merci beaucoup, Elodie Ferrier, pour tout ça. Est-ce qu'on a peut-être un site pour pouvoir avoir plus d'infos sur ce projet-là et puis pourquoi pas peut-être vous soutenir pour ceux que ça peut intéresser ?
Oui, donc on a le site de l'association qui est leturitoire.com. Et puis on est présent aussi sur les réseaux sociaux, on a une page Facebook où on met toutes nos actualités, les conférences, les sorties... les expositions, et puis on publie régulièrement dans la presse locale, donc on peut aussi retrouver des chroniques sur notre blog.
Vous retrouverez tout ça sur la page Facebook InfoFM au Port du Dauphiné, et puis sur l'article pour en podcast donc de l'interview. Merci beaucoup, Elodie Ferrier.
Merci à vous.